matin, nous abordons un autre volet de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le volet créatif, le volet musical. Est-ce que ça peut aider à écrire des chansons?
Bien, manifestement, oui, parce que celle qu'on entend, là, ça a été composée justement par une intelligence artificielle, inspiration des Beatles. Ça s'appelle « Daddy's Car ». C'est une des premières chansons qui a été composée. Et dans les dernières années, on a vu des peintures d'ailleurs qui se sont vendues des centaines de milliers de dollars. D'ailleurs, cet automne, il y a le portrait d'Edmond de Bellamy, près de 500 000 vendu chez Christie's. Oui, ça vous donne une idée à quel point il y en a. Et il y a aussi des scénarios de films qui ont été créés, beaucoup, beaucoup de musique. Là, je veux dire, il y a même une symphonie qui a été composée par un algorithme formé à la lecture de plus de 30 000 partitions. On s'est inspiré de tout ce que Mozart, Beethoven, Stravinsky ont réussi à faire. Écoutez bien ce que ça donne.
Ça ressemble à une musique de film.
Oui, mais c'est impressionnant. Et là, on peut se poser la question, jusqu'où ça va aller? Jusqu'où l'art et l'intelligence artificielle vont être capables de jouer ensemble? J'ai parlé avec Hugues Bersini, qui est expert en intelligence artificielle, professeur de l'Université libre de Bruxelles. Il est à Montréal ces derniers jours en conférence, notamment pour le printemps numérique. Et je lui ai demandé, en fait, mais quand on crée une œuvre, quand un artiste est derrière son piano ou encore avec ses pinceaux, il y a quand même beaucoup d'émotions que la machine n'a pas.
Une machine arrive à s'inspirer ou imiter les peintures du 18e du 19e siècle. La machine, elle, bon, à la limite, elle est un pâle copie, c'est-à-dire qu'elle fait comme si elle avait produit ses œuvres en ressentant des émotions, mais on sait que ça n'est pas le cas. Donc la machine ne ressent rien. Et je pense que c'est en effet une des grandes limitations de la machine en tant qu'artiste, c'est qu'on sait bien que l'œuvre d'art, la production artistique, nécessite cette émotion, si ce n'est que pour pouvoir filtrer entre les différentes propositions.
Alors, pour créer une musique ou encore créer une peinture, l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on va brasser des milliers d'informations que l'informaticien va donner à l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire que si je veux composer une musique style années 60, je vais lui donner des références de musique des années 60, de jouer de tel instrument avec des exemples également de chansons, de groupes de musique d'inspiration pour arriver à un résultat qui va être propre et unique. Mais là, ça amène à une autre question là-dedans, parce que moi, si je crée une chanson avec de l'intelligence artificielle, à qui je donne le droit d'auteur?
Là, vous savez que le droit et l'informatique, c'est toujours une espèce de course-poursuite où l'informatique propose des choses auxquelles le droit n'avait pas songé. Et il faut se réapproprier le droit pour comprendre. C'est ce qui s'est passé avec les copyrights, les copylefts. Et là, vraiment, il faut faire appel au droit. Qui est le propriétaire? Parce que c'est clair que les logiciels ont fait quelque chose d'intéressant. Par exemple, quand les logiciels recombinent des œuvres de Picasso ou des chansons des Beatles de manière à en produire de nouvelles, qui sont somme toute originales, la source d'inspiration est évidente. Mais ils ont quand même fait un travail intéressant de recombinaison avec sans doute des informaticiens qui ont écrit les logiciels pour le faire, qui méritent une part du gâteau. Mais quelle part? Tout ça est à vraiment décider.
Oui, alors faut surtout pas donner à Gad Elmaleh l'intelligence artificielle parce que lui va s'amuser.
Tu prends tous les humoristes de la planète.
C'est ça.
Ils vont, l'intelligence artificielle va écrire un spectacle pour lui.
Oui, c'est ça. Puis il donnera pas le droit d'auteur à personne. Mais c'est quand même pas demain qu'on va donner une carte de l'Union des artistes ou de la Guilde des musiciens à un robot, même si c'est pour le moment le rêve de bien des informaticiens de voir leur logiciel devenir des artistes eux-mêmes.
Mais bien sûr, ils n'y croient pas tout à fait. Et la preuve en est, c'est que les prix exorbitants ou les millions de likes sur YouTube produits par leurs œuvres doivent plus aux conditions de production. C'est-à-dire que les gens, ils ont été impressionnés non pas tellement par le tableau ni par la chanson, mais par le fait que c'est une intelligence artificielle. C'est ça qui a intéressé les gens jusqu'au point de mettre des centaines de milliers de dollars pour acquérir l'œuvre. Moi, je pense qu'il y a une mode pour l'instant de l'intelligence artificielle, mais très très vite, quand on connaîtra un peu les trucs et ficelles qui génèrent ce genre d'œuvre, les prix vont chuter, les prix vont s'écrouler parce que...
Ben, il faudra voir que la mode va durer pendant combien de temps encore, parce que là, c'est bien parti. Et d'ailleurs, il y a plusieurs artistes qui commencent de plus en plus à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Hugues Bersimi me disait que c'est important de le faire aussi. Il y a même des résidences ici au Québec, à Montréal, notamment avec le quartier des spectacles qui est proposé. Il y en aura d'ailleurs au mois d'avril. Mais chose est certaine, l'art et l'intelligence artificielle, pour beaucoup, en tout cas, ça va aider certaines créations. Puis ça peut peut-être ouvrir à d'autres choses. Hein. Dans les années 1800, ben, l'art était une chose. Aujourd'hui, en 2019, c'est autre chose aussi, ça évolue toujours constamment.
Merci, merci. Oui. Ici merci. Votre animateur virtuel.
Le robot Paul.
Le robot Paul, qui dit qu'il faut aller à la pause. Le tunnel La Fontaine, Marc.